Bonsoir à tous et bienvenue sur la radio du cinéma en collaboration avec RTL. Alors, une nouvelle journée cinéma à Cannes pendant ce festival, 74e édition. Et ce soir, nous recevons un invité qui est à la fois réalisateur, scénariste, producteur et distributeur. Je vous le présente immédiatement, Pierre-Emmanuel Le Goff, bonsoir et bienvenue dans l'émission.
Merci de me recevoir.
Je vous en prie. Alors, juste pour nos spectateurs, nous sommes au Majestic, en fait, dans le hall. Donc, c'est un bel endroit typique.
Oui, en effet, c'est vraiment un très bel endroit. Merci d'être avec nous ce soir, Pierre-Emmanuel. Donc, on a dit que tu étais distributeur, notamment, et c'est de ça dont on a envie de parler ce soir. Tu as créé la salle virtuelle avec ta société, la 25e heure. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le concept ?
Oui, bien sûr. Alors, la salle virtuelle, en fait, c'est un concept qui est né, on va dire, de la pandémie. En fait, en tant que distributeur, on avait un film qui devait sortir le 1er avril de l'an dernier, en 2020, et on s'est retrouvé confronté à la fermeture des salles qu'on anticipait un peu, puisque c'était le cas en Chine, c'était le cas en Italie. On s'est dit, bon, notre film, il va être compliqué de le sortir dans une vraie salle. Comment on fait pour continuer de travailler avec les salles de cinéma, générer des entrées, des recettes et faire des séances débat autour du film? Donc on a créé ce qu'on a appelé la salle de cinéma virtuelle, qui permet d'organiser pour les cinémas des séances en ligne, suivies de rencontres, et donc avec cet échange avec le public pour essayer de penser le monde d'après, en l'occurrence grâce à ce film qui parle d'une utopie contemporaine. Et ça a bien marché, et assez rapidement on a ouvert le dispositif à d'autres cinémas, d'autres distributeurs, pour finalement réunir près de 400 000 spectateurs en un an et faire travailler un peu tout l'écosystème de façon résiliente, quoi.
Donc ça, c'est la genèse pendant la pandémie, la fermeture des salles. Et comment ça perdure maintenant que ça a repris un peu mieux l'activité normale ?
Concrètement, il y a eu une période où les salles ont réouvert et elles se sont concentrées sur leur activité en présentiel. Et puis maintenant, on sent déjà que c'est en train de revenir, c'est-à-dire la dimension usage de la salle virtuelle comme un complément de la salle en présentiel, pour notamment aller chercher des publics empêchés. Et donc, de plus en plus de festivals sont en train de nous recontacter pour dire, on va faire des événements hybrides cette année, donc pour élargir l'audience, permettre à ces publics empêchés d'accéder à ces séances et d'interagir aussi à distance, donc avec les réalisateurs quand il y a des séances débat. Et puis éventuellement aussi multiplexer les rencontres pour qu'elles aient lieu à la fois dans le lieu habituel du festival, mais dans d'autres salles de cinéma, en présentiel et en salle virtuelle. Donc on démultiplie l'impact en termes d'audience, en termes de public qui interagit avec les réalisateurs. Et donc ça renforce en fait la salle de cinéma, ça renforce les festivals. Et donc c'est un modèle qui est parfaitement pérenne.
Et donc à destination des festivals, comment ça se passe? Est-ce que ça a déjà commencé? Dans quel festival vous avez pu intervenir?
Bien sûr, alors en salle virtuelle, on a fait plus de 120 festivals sur une période de un an. Et là, on a une douzaine déjà de festivals, rien que pendant le festival de Cannes, qui nous ont contactés pour faire des événements hybrides. Là, par exemple, je suis en rendez-vous avec un festival qui s'appelle Cinémonde, qui a lieu dans les Hauts-de-France. Donc, c'est un festival autour du cinéma africain. L'idée, c'est de diffuser l'événement dans la salle habituelle et puis de le rediffuser dans d'autres salles en France et éventuellement en Afrique, notamment, puisque c'est les thématiques abordées. On va travailler sans doute avec le festival Premier Plan d'Angers, avec qui on a travaillé en virtuel, mais l'idée, c'est de retravailler en hybride aussi avec eux. Et donc, ça va concrètement se déployer dans les mois qui viennent et pour se pérenniser concrètement.
Et comment ça se passe concrètement alors pour un festival hybride ?
Alors, le festival, typiquement Premier Plan d'Angers par exemple, a lieu d'habitude à Angers. L'idée, ça va être que la séance qui a lieu en présentiel soit rediffusée aussi en ligne, accessible potentiellement sur toute la France en ligne. Et si la séance est suivie d'une rencontre, la séance rencontre est captée, rediffusée en ligne. Et donc, le spectateur depuis chez lui peut poser des questions grâce à un système de chat intégré.
Et en fait, c'est ouvert à tous les genres de cinéma, à tout. Voilà, ça peut être du cinéma espagnol, ça peut être du cinéma même d'horreur, enfin voilà, des genres, des mouvements, c'est quelque chose qui est très ouvert comme ça.
Complètement. Là, on va faire peut-être une rétrospective Agnès Varda, donc on va être sur du cinéma de patrimoine. Il y aura Ken Loach qui sera invité, qui va parler aussi de son appétence pour le cinéma d'Agnès Varda.
Oui, bien
donc,
sûr.
C'est ouvert à tous les genres. Ça peut être du film de genre, ça peut être du film de patrimoine, ça peut être du film érotique. On a réouvert la dernière salle de cinéma érotique parisienne en rediffusant des films un peu des années 80, érotique. Donc tu vois, le spectre, il est aussi large que ce qui peut être diffusé dans une salle de cinéma.
Oui, donc du coup, ça amène vraiment tout un tas de spectateurs très différents.
Complètement.
Quelque chose de très universel.
Évidemment. Mais surtout que la barrière de la langue, typiquement, peut être dépassée grâce à la possibilité de traduire la rencontre en simultané, dans différentes langues, voire en langue des signes. Donc finalement, tu permets à un événement de se déployer potentiellement au niveau international, et donc tu multiplies les potentialités de rencontres, etc.
Et tu as travaillé avec Thomas Pesquet il y a plusieurs années sur sa première mission dans l'espace. Il y avait eu notamment, il me semble, beaucoup de films en réalité virtuelle. Est-ce que c'est quelque chose qui peut s'envisager avec la salle de cinéma virtuelle ?
Exactement, tu poses une bonne question. Nous, on pense que, notamment pour récupérer les 15-25 ans, ces jeunes publics qui ont tendance malheureusement à aller moins en salle et à utiliser leur ordinateur pour regarder des plateformes type Netflix, les GAFAM, en gros, et donc c'est pas spécialement des films d'art et essai notamment, c'est pas spécialement des films à débat. Or, ils ont besoin de débattre sur le monde d'après. On voit bien qu'on est dans une période de grosse réflexion sur ce que va devenir le monde, avec les questions de l'environnement, évidemment, notamment. Et donc, concrètement, c'est un outil qui est extrêmement utile par rapport à ça, pour permettre de diffuser des expériences en réalité virtuelle en ligne aussi, avec des players 360, mais aussi pour mettre ces œuvres 360 en regard de films. Donc nous, c'est ce qu'on a fait, par exemple, pour le long métrage autour de Thomas Pesquet. On a diffusé l'expérience en réalité virtuelle aussi dans les salles de cinéma, dans les halls, avec des cases de réalité virtuelle. Mais les publics empêchés pourront avoir accès à l'expérience aussi en ligne. Et puis d'autres cinémas vont voir que, il y a eu un événement de fait avec un long métrage et de la réalité virtuelle. Je vais reprendre le concept et je vais faire la même chose dans mon cinéma, à la fois en présentiel et éventuellement aussi en ligne. Donc ça va démultiplier finalement la possibilité pour les salles de cinéma d'aller vers ces œuvres en réalité virtuelle. Le film Animal de Cyril Dion, typiquement, on pourrait imaginer qu'il y a un film sur la question environnementale en réalité virtuelle qui soit diffusé en simultané pendant la tournée du film ou en ligne, etc. etc. Donc ça va faciliter ce travail de curation des programmateurs qui ne savent pas forcément tout ce qui existe en réalité virtuelle. Ce n'est pas leur métier à la base, donc on va les aider aussi grâce à la plateforme à découvrir tout ça. Ça peut être aussi des expériences comme des bandes dessinées interactives, ça peut être des jeux vidéo, pourquoi pas. Enfin, l'idée, c'est d'amener les jeunes spectateurs à découvrir des œuvres, mais peut-être en les alpaguant, on va dire, en les attirant par de l'innovation et ce genre de choses.
Ça veut dire aussi que ça peut ouvrir la porte à des nouveaux de la nouvelle création de contenu, c'est-à-dire prévoir pour créer pour ce mode-là. Parce que là, on parle d'adapter quelque chose qui existe déjà et de le mettre donc dans ce concept. Mais on peut maintenant peut-être envisager que dans le futur, on va vraiment créer des films exprès pour ça, pour les salles de cinéma. Ma question, c'est est-ce que ça ne demande pas un dispositif qui est très compliqué, qui est très onéreux ? C'est surtout ça, en fait, mettre à la page, quoi.
Non, bien sûr, mais nous, notre politique, ça a été de se dire le dispositif, la plateforme, par essence, ça va permettre de connecter, d'interconnecter, notamment les salles de cinéma à RSA, de partager les événements, etc. Et on a fait en sorte que pendant la pandémie, l'accès à ce dispositif soit gratuit pour elles. Par contre, nous, on se rémunère sur chaque ticket vendu. Donc, on prend 20% de commission. Donc, en fait, après, si ça marche pas, s'il y a zéro spectateur, on touche zéro. Par contre, si ça marche, on prend un intéressement. Donc, il n'y a pas de frein économique, si tu veux, par rapport à ça. Par contre, les festivals qui ont des budgets plus importants, ils vont prendre une licence à l'année pour utiliser le dispositif. Mais il n'y a pas de... Si tu veux, pour nous, c'était évidemment un pas important à faire franchir aux exploitants, de se dire on va utiliser l'outil numérique. Pour certains, c'est une autre planète. Facebook, même une adresse mail, on s'est retrouvé face à des exploitants qui ne savaient même pas utiliser une adresse mail. Enfin, c'est vraiment un autre monde. Ils ont 65-70 ans et ils fonctionnent par envoi de DCP par courrier, et puis ils envoient ils sont dans une autre planète. Donc là, c'est un pas important à franchir pour eux, et puis ils s'y sont mis de plus en plus progressivement, et puis tu as des jeunes exploitants qui, eux, ont tout de suite compris l'intérêt.
Et puis ça peut permettre éventuellement d'aller lancer des appels à projets de création nouvelle, d'encourager vraiment la VR et d'autres...
Complètement, parce que en fait, le problème de la VR aujourd'hui, c'est la limitation des modes de diffusion, et le fait d'aller toucher, en fait, par la salle virtuelle, le public d'un cinéma. En fait, on va toucher une audience tout de suite potentiellement beaucoup plus grande, et on peut ramener des cinéphiles en leur disant je sais pas, autour d'Agnès Varda, en réalité il y a peut-être une expérience qui a été faite en réalité virtuelle et en animation, vous allez la découvrir, et des personnes de peut-être 55-60 ans vont se dire mais en fait ça existe, la réalité virtuelle, le découvrir en ligne. Et puis à un moment donné, ils iront mettre leur tête dans un casque dans le hall de leur salle de cinéma. Enfin, tu vois, ça se fait dans les deux sens.
Et donc sur Thomas Pesquet, est-ce qu'il y a un projet qui continue? C'est une aventure qui continue, puisque là il est à nouveau dans l'espace.
Alors évidemment, Thomas, on l'a contacté pour essayer de suivre ses entraînements, mais avec le Covid, c'était extrêmement compliqué. Il y avait vraiment une bulle sanitaire autour de lui, on comprend les enjeux. À ça, tu rajoutes en plus le fait qu'Elon Musk, qui est le patron de SpaceX, le véhicule spatial sur lequel il est parti, est vraiment dans une logique de sécurité par rapport à tout ce qui est données scientifiques. Il a très peur de l'espionnage industriel, en gros. Donc, on a assez vite lâché l'affaire sur le fait de le suivre pendant ses entraînements. Et par contre, voilà, on travaille sur un projet à partir des images qui va quand même tourner dans l'espace, avec un autre angle évidemment, sans doute plutôt pour les écrans géants. Et on travaille aussi sur une déclinaison du format précédent, enfin des formats précédents, pour le Cube, qui est un lieu à Bordeaux. En fait, c'est un ancien endroit où il y a des sous-marins. C'est une expérience immersive sur des énormes écrans dans cet espace. Et donc, on va refaire une déclinaison autour des films sur Thomas Pesquet.
Ah oui, carrément, avec l'IMAX, peut-être même encore la VR, et il finira aussi dans la salle virtuelle.
Pourquoi pas ? Non mais on l'a déjà fait, on a fait des séances en salle virtuelle, à la fois multiplexée dans 45 instituts de français partout dans le monde, et puis je l'ai fait aussi avec des écoles. On diffusait directement le film dans les salles de classe, et puis j'interagissais avec 5 salles de classe en même temps, et les gamins venaient me poser des questions en ligne, et je leur répondais, et ça a super bien marché.
Mais c'est vrai qu'il a le don de faire rêver dès le plus jeune âge.
Les petits, les grands, c'est même pas de 7 à 77 ans, là. Je pense que c'est de 3 à 130 ans, quoi.
Pierre-Emmanuel, merci en tout cas. Hein. C'est quelque chose que je découvre. Je trouve ça vraiment incroyable.
Tu veux un abonnement spécial?
Je pense que ça va énormément me plaire. Et puis je trouve que ça y est, c'est le progrès aussi. Ça veut dire que c'est en marche et qu'on commence à passer des étapes importantes. Il y a 40 ans en arrière, on avait découvert les lunettes vertes et rouges d'un côté en plastique qu'on nous distribuait sur certains films. Ce temps est révolu. Effectivement, la technologie rejoint l'art et c'est ce que tu représentes aussi là en nous expliquant ce projet-là. Donc moi je trouve ça vraiment très chouette.
Pour nous, en deux mots, on essaie de se dire que la révolution numérique qui est passée par c'est les DCP, tout ça c'est numérisation des salles de cinéma. Pour aller au bout, il faut que les salles se connectent vraiment aux plateformes et à l'espace numérique et réinvestissent cet espace et se laissent pas manger en gros par les GAFAM qui ont très bien compris que le meilleur espace pour voir un film, c'est une salle de cinéma.
Oui,
la question n'est pas là.
Oui,
et donc il faut qu'elles réagissent, ces salles. Et le numérique est un formidable outil pour justement faire découvrir des films, échanger avec des réalisateurs. Donc on est très confiants sur l'avenir.
Bah, je suis sûr en tout cas que ça va plaire à des tas et des tas de personnes qui nous suivent ce soir et qui vont découvrir ce concept. Merci d'être venu partager votre passion, enfin ta passion avec nous.
Oui, merci beaucoup, Pierre-Emmanuel.
Merci.
Merci beaucoup. Et Cannes, eh bien, ce sont des films, c'est une sélection. Et ce sont aussi nos chroniqueurs qui voient des films toute la journée pour pouvoir vous expliquer un peu ce qui se passe ici et quelles sont les nouveautés et les films qui vont sortir, qui vous donnent leur avis. Et tout de suite, eh bien, j'accueille Jérémy qui malheureusement va prendre, voilà, qui va devoir prendre votre place.
Bonjour.
Alors Jérémy, qu'est-ce que tu as vu comme film aujourd'hui ?
Tout un tas de choses. Déjà, j'ai commencé très tôt ce matin avec Tralala. Tralala.
Alors oui, Tralala, c'est de qui ?
De Arnaud et Jean-Marie Larrieux.
Alors j'avais envie que tu le dises parce que les frères Larrieux, en fait, c'est vraiment une institution très forte du cinéma français. Et c'est un film qui était très, 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 très attendu. Pas par tout le monde, mais par les critiques cinéma pur et les grands techniciens du cinéma attendaient ce film. Alors je suis très curieux de voir ce que tu en as pensé parce que je ne l'ai pas vu moi.
Et ben pour le coup, j'ai trouvé que c'était un peu un genre d'Annette en beaucoup plus soft. Oui. Mais on a le même concept en fait que j'ai découvert parce que je savais pas que c'était un film musical. Donc on retrouve Mathieu Amalric, Mélanie Thierry, Josiane Balasco et Mai Wen. Et donc on suit les aventures d'un homme qui a à peu près une quarantaine, cinquantaine d'années, qui s'appelle Tralala, qui est musicien. Il s'appelle comme ça, la chanson d'ouverture, c'est sa présentation en fait, hein, il s'appelle Tralala. Et donc c'est Mathieu Amalric qui le campe, et donc on a cet homme qui a l'air un peu candide, un peu désinvolte, et qui se balade avec sa guitare électrique et son petit ampli, et donc, ben, voilà, il arpente les rues de Paris. Et puis, il va tomber sur une jeune femme, et là, c'est...
Donc, c'est une histoire d'amour ?
C'est le coup de foudre.
C'est une histoire d'amour, ah oui.
C'est le coup de foudre.
C'est une histoire de passion.
Et quand elle part, avant de partir, elle dit, surtout, ne sois jamais toi-même, et elle laisse un briquet de Lourdes. Et ça D'accord. lui laisse un indice pour la retrouver. Et il va donc aller à Lourdes pour la retrouver. Et là,
c'est un petit peu comme dans Amélie Poulain où il y a des photos et puis il y a tout ce cache-cache.
Oui, et puis même au niveau de l'ambiance, on retrouve un peu ce truc-là, pas sépia, mais bon, bucolique. Il y a vraiment de ça, ouais. Et donc dedans, il y a une citation qui représente vraiment le film. Je l'ai notée parce qu'elle m'a marqué. C'est « Ce mensonge peut être le pas vers une autre vérité ». Et c'est exactement ça, c'est, il va y avoir un moment, un conflit entre la vérité, qu'est-ce que c'est être soi-même, qui nous sommes, et non, c'était vraiment, vraiment très sympa.
Oui, on sent que tu as bien aimé, ouais, effectivement. Ouais, tu as vu ce film, toi, Laura ?
Non, moi j'ai vu un autre film que je n'ai pas du tout aimé. Donc, attends, je reprends des petites fiches. Moi j'ai vu Tromperie de Arnaud Desplechin. Avec Denis Podalydès et Léa Seydoux, en fait, qui campent un couple adultère. Donc, elle est mariée, lui aussi. Et ils se retrouvent tous les jours dans son bureau. Lui est écrivain américain à Londres. Et elle est anglaise. Et donc, ils se retrouvent comme ça tous les jours. Ils s'aiment. Ils discutent de ce que c'est que l'amour, la fidélité, la tromperie. Qu'est-ce que c'est que la liberté ? Et avec ce pitch-là, en fait, moi, je pensais que ça allait être des beaux dialogues, des vraies conversations profondes. Et en fait, pas tant que ça. C'était un petit peu décevant dans le sens où ce sont des scènes assez courtes qui ne laissent pas le temps d'aller au bout des choses. Il y a également un problème de... Je ne veux pas être offensante, mais de crédibilité dans ce couple de Denis Podalydès, un grand séducteur, c'est pas tout à fait crédible. Il y a beaucoup d'histoires parallèles avec les autres femmes de sa vie. C'est tiré d'un roman, en fait. Et donc c'est découpé en chapitres, mais qui ne fonctionne pas du tout. On passe un peu du coq à l'âne, on ne sait pas trop... qui est cette nouvelle femme à qui il parle. Alors on comprend au bout d'un moment, mais c'est pas vraiment convaincant. Non, moi j'aurais préféré aller voir Tralala, hein, ouais, malheureusement. Mais après, on a quand même vu quelque chose.
Avant ça, j'en ai vu un autre.
Ah pardon, vas-y.
Par la suite, j'ai vu La Panthère des Neiges de Marie Amillet. Et là,
que j'avais vu hier soir.
On en a parlé effectivement hier. Et donc du coup, oui, je te rejoins complètement sur ce que tu as pu dire. C'est contemplatif, c'est grandiose, appuyé par une musique qui est un mélange un peu entre la world et le post-rock. Donc on a le côté roots un peu, et puis on a aussi vraiment ce côté relaxant qui amène à l'introspection, en fait, hein. C'était fou, et un des meilleurs acteurs du festival dedans, c'était un chat de palace qui, non, on aurait voulu le dresser, on n'aurait jamais fait aussi bien que ça. C'était...
Et,
énorme.
Et, alors je ne sais pas ce que tu as pensé de la photographie du film, qui est quand même hallucinante. Bon, à savoir pour les gens qui ne connaissent pas, pour nos spectateurs qui peut-être ne connaissent pas, Marie Amiguet, elle est quand même considérée comme une des monteuses et des photographes, mais dans le sens photographie de cinéma, les plus importantes du monde, qui vraiment a une touche très, très, très reconnaissable. Et puis elle est avec Vincent Munier dans ce film, qui est le photographe animalier le plus connu du monde, hein, de toute façon, qui a réalisé des choses extraordinaires. Donc voilà, je voudrais savoir ce que tu as pensé de surtout de l'image et de l'esthétique.
Ah, c'est même presque surréaliste. Enfin, c'est des décors qui sont sur Terre. On fait des films de science-fiction avec des images de synthèse et tout. Là, on est sur Terre. Et il y a ce côté quand même...
surréaliste et fiction.
Ouais, invraisemblable. Il y a des montagnes qui se mélangent comme des vagues. Il y a des ciels dorés et tout ça, c'est réel. C'est fou, et on voyage, mais tellement, tellement plus que d'habitude dans un documentaire animalier. Là, il y a vraiment ce côté surréaliste. Alors,
pour rappeler, hein, pour les gens qui n'auraient pas vu l'émission d'hier, effectivement, donc ça s'appelle La Panthère des Neiges, et l'histoire, tout simplement, hein, c'est un homme, un aventurier, écrivain, qui emmène un autre homme à découvrir sur les hauts plateaux tibétains.
C'est ça.
Eh bien, cette attente est pour peut-être avoir la chance d'apercevoir cette fameuse panthère des neiges, qui est l'animal le plus difficile à observer du monde, tant elle est discrète, rare et ainsi de suite, quoi. Ça, c'est le
pitch. Voilà, tout le long, en fait, ils vont croiser tout un tas d'espèces endémiques, en fait, en tout cas locales du Tibet. Et puis, ils vont rencontrer aussi des peuples nomades. Et il y a beaucoup de discussions entre eux sur qu'est-ce que c'est l'humain, en fait, hein, est-ce que c'est notre vie qu'on a tous, hein, dans les cités, ou juste respirer à un moment donné. Je crois que c'est Vincent Monnier qui respire à un rocher. Et Sylvain Tesson lui demande mais pourquoi tu fais ça, enfin est-ce que faut pas faire ça en ville hein, quand tu respires les immeubles ça va pas bien se passer et tout. Donc il y a un peu d'humour là-dessus, mais globalement oui, ça parle beaucoup de la place de l'homme sur Terre.
Oui, en fait elle comme elle le disait dans la conférence de presse à laquelle on a eu la chance d'assister, c'est qu'elle voulait replacer l'homme en tant qu'animal faisant partie d'un écosystème. Et ça c'était son point de vue effectivement, et on le comprend, le film est bien amené pour ça.
Ouais.
Oui, vous avez vu un film en commun, alors.
Et on a vu un film en commun.
Tout à fait. Alors, on a vu le film... On en sort tout juste, hein, on est vraiment à chaud. On a vu Entre les vagues de Anaïs Volpe, qui était dans la sélection de la quinzaine de réalisateurs, avec les comédiennes Deborah Lukumuena, qui est également dans un autre film en sélection cette année, Robuste, et Soukaila.
Soukaila, oui.
Et... Encore une fois, on n'est pas tout à fait d'accord. Moi, j'ai vraiment passé un très beau moment. C'était donc une histoire de deux jeunes filles qui sont toutes les deux comédiennes au théâtre. Elles passent une audition et elles sont très amies, mais elles sont également rivales pour cette pièce-là. Et il y en a une qui a le rôle et l'autre qui devient sa doublure, en fait. Donc, ça fait vraiment un rapport très, très proche dans la rivalité. Mais vraiment, le cœur du film, c'est leur amitié très forte par Mons et par Vaux, à la vie, à la mort. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a touchée parce que les deux comédiennes sont très, très puissantes, très tendres. Elles ont vraiment une puissance de jeu. Et le propos était, j'ai trouvé magnifique. Moi, j'ai presque versé ma petite larme.
Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que finalement, donc, il y en a une qui est la doublure de l'autre, mais il y a un événement qui va faire que la doublure va prendre le premier rôle, en fait. Ouais. Et il va y avoir le conflit de loyauté, en fait, entre les deux. J'ai beaucoup aimé le début. Le début est très drôle, il y a beaucoup d'énergie. C'est vrai que les actrices sont très efficaces, hein, mais il est terriblement prévisible après. Et du coup, mais alors là, c'est même plus que prévisible. Et donc du coup, le film m'a perdu. C'est-à-dire qu'après, tout le long, j'ai passé mon temps à réfléchir sur... bah oui, il va se passer ça. Bah oui, et il se passe ça. Et du coup, j'ai... Je suis devin, en fait.
Jérémy va devenir scénariste.
Le marabout du cinéma. Et donc du coup, après tout le long, j'étais perdu. Rattrapé à la fin... Parce qu'il y a effectivement beaucoup d'émotions.
Dire quand même que ça fonctionne.
Alors, ça fonctionne sur la fin, oui.
C'est vrai que moi, j'ai pas joué à anticiper tout le film dans ma tête.
Ouais.
même si je peux comprendre qu'il y a des choses qui soient évidentes. Mais moi, j'ai trouvé que ce qui est arrivé, oui, même si ça peut être un peu prévisible, sont des choses... qui peuvent arriver, oui. C'est la vie. Et
oui, bien sûr. Mais j'ai pas cherché à ça, en fait. C'est comme dans Mulan. À la fin, on sait que voilà qu'elle va être avec le chevalier, qu'elle a gagné. Bah là, c'est pareil. Il n'y a même pas besoin de réfléchir. On sait que ça va se passer comme ça.
Peut-être. Bon, et ben moi, en tout cas, j'ai pas fait tout le film dans ma tête et j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment passé un bon moment quand même.
Non, c'était un bon moment malgré tout.
Oui, et ça révèle en tout cas deux comédiennes
oui,
très, qu'on va ouais, revoir, très ouais, certainement.
Ouais. Plein de promesses, ouais, c'est ouais. Vrai.
Donc, Entre les vagues d'Anaïs Volpe, qui vous a divisé un petit peu ce soir. Et bien, écoutez, de mon côté, nous avons eu ce matin une rencontre en conférence de presse avec Valérie Lemercier pour le film Aline. Alors, je peux juste vous dire voilà, que le film est incroyable et c'est grandiose. Et là où Valérie Lemercier réussit un exploit, c'est qu'elle jamais, mais à aucun moment, elle ne se moque. Mais à aucun moment du film, elle ne se moque de Céline Dion. C'est vraiment que de l'admiration. Et elle arrive comme ça sur un fil à faire un film où on sent toute l'affection qu'elle a pour cette grande artiste, à réimaginer sa vie, parce qu'elle le dit, ça n'est pas un biopic. C'est inspiré très, 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 très fortement. Mais c'est aussi plein de romances totalement fictives. Et puis, il y a... Bah, la bande-annonce est dingue. D'ailleurs, les critiques sont dithyrambiques, hein, ça c'est sûr et certain, et on les comprend. Et le film est vraiment très réussi, c'est très drôle, et surtout c'est très tendre. C'est une vraie histoire d'amour qui fait du bien dans ces temps un peu durs. Donc voilà, ça sort pas avant le 29 novembre, donc il va falloir être patient. Voilà, nous on a eu la primeur, c'est aussi ça le Festival de Cannes. Eh bien, écoutez, c'était voilà notre émission en direct du Majestic Hotel sur cette soirée extraordinaire. C'est très joli. Et puis, nous voulons vous remercier de nous suivre depuis le début de cette quinzaine. On remercie également la personne qui vous a offert cette émission ce soir, le domaine Jean Esprit, hein, qui se trouve à Pont-d'Isère. Et on vous retrouve très vite pour d'autres aventures canoises. À très bientôt.
À bientôt.
La radio du cinéma est en direct chaque jour depuis le Festival de Cannes en collaboration avec RTL.fr. Écoutez, regardez les lives depuis la Croisette et le Palais des Festivals. Les projections du jour, interviews, temps fort. Soyez les spectateurs privilégiés du Festival de Cannes 2021 avec la radio du cinéma et RTL.fr.